la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Le monde du travail, en collaboration avec l'Organisation internationale du travail, célèbre partout dans le monde cette journée avec l'objectif commun de promouvoir la culture et la sécurité. Le principal objectif de cette journée est de promouvoir une culture de la sécurité et de santé au travail. Le Bureau international du travail a publié un rapport, La sécurité en chiffres, qui montre que 2 millions de travailleurs dans le monde meurent chaque année dans le cadre de leur travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit 5000 personnes par jour. Une centaine de personnes se sont rassemblées mardi 28 avril à l'appel d'une intersyndicale devant le ministère du Travail à Paris pour dénoncer les morts au travail et réclamer des mesures pour faire chuter les accidents et maladies professionnelles. Après la mort d'un lycéen dans le Gard le 17 avril lors d'un stage d'observation de seconde dans une entreprise de bâtiments et travaux publics, Alex Benoît de la Fédération syndicale unitaire a appelé à arrêter les stages de 3e et de seconde. Le ministère du Travail Jean-Pierre Farandou a déclaré mardi à l'AFP que le plan Santé au travail 2026-2030 serait présenté fin mai en mettant l'accent sur la prévention. Les stagiaires en amont de leur période d'observation en entreprise seront informés et sensibilisés à la santé et à la sécurité. Toute petite avancée depuis décembre 2025, un guide relatif à la prévention des risques professionnels leur sera remis au moment de la signature de leur convention de stage. L'employeur a une obligation en matière de santé et de sécurité au travail auprès de son personnel inscrite depuis 1991 dans le Code du travail. En cas de mise en danger, mais si cela n'a pas conduit à un accident ou une maladie, le salarié peut rompre son contrat par décision de justice. C'est ce qu'on appelle prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Le mardi 28 avril 2026 marquera la sensibilité mondiale de la santé et de la sécurité au travail. Celle-ci vise à sensibiliser les employeurs et les salariés aux risques professionnels afin de prévenir les accidents, les maladies et les décès liés au travail. Depuis 1996, cette date est également dédiée à la commémoration des travailleuses et des travailleurs morts ou blessés au travail, rappelant l'importance de la mobilisation de tous les acteurs pour renforcer la sécurité au travail. Et maintenant, le sommaire. Au sommaire de cette émission, nous recevons Boris Zames et Loris Drou-Limbronzo. Nous parlerons de l'enquête sur l'école de la cité fondée par Luc Besson en Seine-Saint-Denis et du climat toxique évoqué par les étudiants. Ils seront interviewés par Lola et Tiana. Dans le Zoom, Estelle nous présentera Voudoussi et Sarah de Maison Lyonard, artistes féministes en art visuel. Francesca nous présentera le Flash Info. Côté chronique, Greg nous parlera de la cigarette et Noémie du 24 avril. Et tout de suite, c'est l'interview de la matinale.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Dans cette matinale, nous recevons Boris Zames et Loris Drou-Limbronzo, qui ont réalisé l'enquête sur l'école de la cité fondée par Luc Besson en Seine-Saint-Denis. Bonjour Boris.
Bonjour.
Bonjour Loris.
Bonjour.
Et vous serez interviewé par Laura et Tiana. Lola et Tiana, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Bonjour, c'est à vous. Allez, je laisse tomber.
Bonjour Fabien. Alors bonjour Boris Zames.
Bonjour.
Vous êtes journaliste cinéma et culture ainsi que critique de cinéma, notamment pour les magazines Sofilm, Métal Hurlant et Écran Large. Loris Drou-Limbronzo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également rédacteur pour le magazine Sofilm, revue et corrigée, ainsi que pour la Cinémathèque française où vous rédigez des critiques pour le catalogue des films restaurés. Alors merci à vous deux d'être avec nous ce soir. Donc, vous avez coécrit ensemble une enquête parue dans le dernier numéro de Sofilm le 18 mars 2026 sur l'école de la cité, une école fondée par le réalisateur Luc Besson en 2012 et fermée définitivement en 2021. Dans cette enquête, l'école de la cité a-t-elle craqué? Une soixantaine d'élèves témoignent du fonctionnement interne de l'école, d'un climat toxique, d'humiliation, d'agression sexiste et sexuelle, et ce de la part de Luc Besson lui-même, ainsi que d'autres intervenants de l'école. Donc c'est ce dont l'on va parler dans cet entretien. Alors pour commencer, pouvez-vous nous rappeler ce qu'était en fait le projet de l'école de la cité?
Pour comprendre un peu déjà ce qu'est l'école de la cité, il faut savoir où elle est implantée, où elle était implantée. Elle était implantée à la Cité du cinéma, qui est un peu ce qu'on appelait à l'époque le Hollywood sur scène. En gros, c'était une sorte d'énorme studio américain, mais à la française, où En fait, il y aurait à la fois des studios de tournage, des moyens de tournage aussi, c'est-à-dire des entreprises de location, et en plus des écoles. Donc il se trouve que l'une des écoles, c'était l'école de la Cité, mais il y en a eu d'autres. Il y a aussi une école d'actorat, je crois, si je ne me trompe pas, une école aussi de maquillage. Et puis il y avait aussi une très célèbre école qui est l'école Louis Lumière, donc qui était installée avant l'école de la Cité. Autre chose à savoir aussi, c'est que l'école se trouvait donc dans le 93, qui est le département le plus pauvre de France, donc ça fait aussi partie de l'ADN du projet, à savoir en fait créer une école ouverte à toutes et tous, sans condition de diplôme, entre 18 et 25 ans.
Pour rebondir maintenant, enfin pour parler de l'enquête, est-ce que vous pourriez nous parler du point de départ, parce que au vu des différents témoignages, on voit que il y a bien une réticence des élèves à parler, un climat de peur, parce que bah c'est quand même un gros sujet. Et à quel moment vous avez réalisé l'ampleur en fait de cette affaire?
Alors en fait, l'enquête débute quand Boris vient me chercher pour écrire sur l'école de la Cité, c'est-à-dire qu'une amie de Boris a été elle-même étudiante au tout début de l'école, à la première promo Luc Besson en 2012. Et en fait, au début, l'idée c'était vraiment de raconter les 9 ans d'existence de cette école, donc de 2012 à 2021, et d'adopter uniquement le point de vue des anciens étudiants et des anciennes étudiantes qui ont fait leurs études là-bas. Et en fait, au fur et à mesure des interviews, on a découvert quelque chose dont on était un peu au courant, puisque depuis les articles de Mediapart post-MeToo, on savait qu'il y avait des accusations à l'encontre de Luc Besson au sein de l'école de la part d'anciennes étudiantes, mais on pensait que c'était quelque chose, on va dire, de malheureusement de marginal, et on s'est rendu compte qu'il y avait en fait tout un système pyramidal qui repose un peu sur chaque strate écrase celle la classe qui est en dessous, et ça part effectivement de Luc Besson, ensuite ça descend jusqu'à l'administration, les professeurs et les étudiants. Et au fur et à mesure de nos rencontres et de nos conversations avec les étudiants, on s'est rendu compte que tout ce qui était accusation de harcèlement moral, de harcèlement sexuel et de plusieurs agressions sexuelles qu'on reporte dans l'article, qui ont été racontées par ces étudiants, en fait c'était beaucoup plus nombreux que ce qu'on pensait à la base. Et c'est pour ça que l'article naturellement a pris cet angle, c'est-à-dire l'angle un peu des VHSS qui ont eu lieu sur place.
Ouais, donc au départ c'était pas le sujet principal, vous misiez plutôt sur quoi ?
À la base, comme disait Boris, c'est vraiment le projet utopique de Luc Besson, c'est-à-dire de créer une école de cinéma sans condition de diplôme, gratuite, accessible à tous, dans une des villes les plus pauvres de France, dans le département le plus pauvre de France, donc en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis. Et en fait, le point de départ, c'était de raconter voilà un peu la déchéance de cette utopie. Ouais. Et en fait, ça a pris un virage qui est beaucoup plus, beaucoup moins, comment dire...
Et plus dramatique.
Voilà, plus dramatique.
Et après, ça s'est fait au hasard des rencontres. En fait, on a fait d'abord 3-4 interviews dans l'idée de faire une sorte de reportage un peu décalé comme on fait dans ce film. Et puis là, la quatrième ou cinquième personne nous parle d'une agression sexuelle présumée. Et c'est vrai qu'on a demandé... on a demandé d'abord le feu vert à nos rédacteurs en chef si on devait aller justement dans cette zone-là, qui était un terrain, on va dire, marécageux. Donc finalement, on a eu le feu vert et ça nous a pris énormément, énormément de temps parce qu'effectivement, on a eu l'impression de creuser, creuser, creuser sans arrêt. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il y aura encore plein, plein de choses à creuser, quoi.
Oui, j'en doute que récolter tous ces témoignages, ça a dû prendre du temps. Et justement, en parlant des témoignages, la plupart sont anonymes. On sait qu'il y a une grande loi du silence dans le cinéma. Moi, je voulais vous demander comment vous avez réussi à convaincre les anciens élèves de briser l'omerta alors que beaucoup craignent encore des représailles.
En fait, c'est ça s'est créé. En fait, au départ, il y a eu une première vague où on commençait par approcher les étudiants leur expliquant tout simplement notre démarche. Donc, il y a eu un écrémage très rapide, c'est-à-dire il y avait ceux qui ne nous répondaient pas, ceux qui acceptaient et puis ceux qui hésitaient. Et puis, on a pu les relancer quelques mois plus tard. Et dans une seconde phase, ce qui a été mis en avant, c'est la confiance. Parce qu'on a, en tout dernier, on a approché des victimes présumées, les principales victimes présumées. Et on a réussi à leur parler, en fait, par l'intermédiaire d'autres camarades, en fait, avec qui on avait déjà parlé, en fait. Donc ça s'est fait comme ça, ça n'a pas toujours été évident. C'est d'autant moins évident quand, par exemple, on a été mis au fait d'une agression présumée qui a été commise sur une personne, et cette personne, nous n'avons pas réussi à l'avoir, mais on sait très bien qui c'est. Et en même temps, on ne peut pas non plus se permettre de raconter son récit à sa place, quoi.
Bien évidemment. Et est-ce qu'il y a des récits que vous n'avez pas publiés, peut-être par prudence journalistique?
Alors oui, il y a tout l'aspect des rumeurs. En fait, on a eu certaines rumeurs qu'on n'a pas publiées parce qu'on n'a pas pu les vérifier, même si ils ont été, imaginons, 10 élèves à la raconter. Après, il y a aussi une question d'angle. Nous, on a eu un témoignage d'une élève qui nous a parlé pendant près de 2 heures d'un viol dont elle a été victime. Ça, on n'a pas pu le publier parce qu'effectivement, c'était en dehors des murs de l'école. Mais ce viol a été rendu aussi possible par une sorte de climat toxique qui infusait dans l'école, en fait. Mais effectivement, nous, même juridiquement,
c'était
pas possible parce qu'effectivement, ça s'est pas du fait de l'école factuellement, quoi.
Oui, c'était voilà. Assez préjudiciable, oui.
Oui, c'est ça. En fait, on voit vraiment que le système qui a été favorisé par l'école, il a aussi entraîné peut-être d'autres étudiants, notamment des hommes, à agresser leurs camarades en toute impunité, vu qu'il y avait la loi du silence qui régnait vraiment dans l'école. On voit aussi dans votre article, dans votre enquête, que les rapports genrés, ils sont très présents dans l'école. Il y a un passage où les intervenants disent, en fait, les hommes sont beaux et forts et les femmes sont belles et pleines de charme. Donc comment, en fait, comment vous avez un peu appréhendé cette enquête d'un point de vue où ça sortait, en fait, de ce système? Je veux dire, du coup, vous dites que vous n'avez pas publié certains actes qui ont été commis en dehors de l'école, mais qui ont été favorisés par le système. Donc comment est-ce que vous avez enquêté sur ça?
Alors, en fait, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est très important et que beaucoup d'étudiants et d'étudiantes nous ont rapporté, c'est qu'il y a aussi beaucoup de choses qui datent d'une ère pré-MeToo. Et en fait, l'école de la Cité, et je pense qu'elle n'est pas la seule dans ce cas-là, et que c'est le cas de beaucoup d'écoles supérieures en France et ailleurs, il y a un climat effectivement masculiniste, misogyne, un peu intégré dans les mœurs. Et effectivement, on a beaucoup d'anciennes étudiantes qui nous ont raconté que quand elles étaient sur un tournage, y a des camarades de classe ou voire même des profs qui leur disaient les femmes, vous êtes plutôt sur ces postes-là, les hommes sur ces postes-là. Et effectivement, il y a des stagiaires hommes sur les plateaux qui disaient à leurs camarades, toi, en fait, tu vas aller à la régie faire les sandwichs, pendant que nous, on va trouver le bon poste à côté du caméraman sur le tournage. Et donc, en fait, tout ce sexisme que concentre l'école, nous, on a essayé de le raconter effectivement à travers plusieurs histoires, mais forcément, effectivement, ça induit un tri. Donc, comme disait Boris, il y a des choses qui ont eu lieu en dehors de l'école dont on pouvait pas parler, et forcément, il y a aussi des degrés de gravité, même si c'est triste d'en arriver là. Et donc, nous, on s'est retrouvés effectivement avec nos deux rédacteurs en chef, Axel Cadieux et Lucas Aubry, qui nous ont beaucoup aidés dans cette enquête, et on a dû beaucoup couper parce que à la base, l'enquête fait 65 000 signes, on en a publié 40 000, si j'ai pas de bêtises. Donc mine de rien, dans ces choses-là, il y a beaucoup de choses qui se perdent. Et donc on a essayé de garder l'essentiel. Et je pense que dans cet essentiel-là, on a quand même un peu une peinture d'une école où tout ce qui est violence sexiste et sexuelle sont quand même assez prégnantes, malheureusement.
Et est-ce que au cours des différentes interviews que vous avez pu mener, les étudiants et les étudiantes ont pu mettre des mots sur, en fait, ce système, et puis peut-être des étudiants qui ont agressé d'autres étudiantes qui n'en avaient peut-être pas conscience parce qu'ils étaient justement poussés par les intervenants à le faire? Est-ce que vous avez réalisé ça?
Alors, il y a déjà beaucoup d'étudiantes qui nous ont dit qu'elles étaient rassurées de savoir qu'on avait entendu des choses similaires de la part de d'autres personnes. Et en fait, il y a cette chose-là, et quand je parlais d'air pré-MeToo, c'est que forcément, MeToo, on parle toujours de libération de la parole, et ces anciennes étudiantes qui ont potentiellement subi des choses avant MeToo n'ont pas eu l'occasion d'en parler avec d'autres femmes et même d'autres camarades qui pourraient être compatissants. Et elles se rendaient compte, et certaines réalisaient pour la première fois effectivement qu'elles n'étaient pas seules et qu'elles n'étaient pas les seuls à avoir subi ça de la part de camarades, de profs, etc. Et de la part de, d'étudiants. On n'a pas eu d'aveu ou quoi que ce soit, mais certains nous disaient effectivement qu'ils ont fermé les yeux sur certaines choses et aujourd'hui ils ne fermeraient plus les yeux parce que voilà, les temps ont changé.
J'ajouterais aussi une petite nuance, c'est qu'il nous est arrivé d'interviewer un agresseur présumé. On l'a interviewé avant de savoir qu'il était auteur d'une agression. Et c'est vrai que pour lui, tout s'était bien passé, alors qu'en fait, il faisait partie d'un groupe qui a été ciblé par plusieurs étudiantes. On en parle, qui s'appelle ils surnommaient les gassures. Donc lui, je ne sais même pas ce qui s'est passé après derrière. Mais en tout cas, c'est vrai que nous, on a fait quelque chose de significatif, c'est qu'on a fait relire l'article avant publication à toutes les intervenantes et tous les intervenants, quoi. Et les seules personnes qui ont eu des choses à redire sur des mots, etc., c'était des hommes.
Ouais, forcément. Voilà. Les agresseurs.
Pas vraiment étonnant.
Pas forcément des agresseurs, mais des hommes en général.
Pour revenir peut-être un peu plus sur...
On va faire une petite pause ?
Oui.
Ah, non, c'est pas que je m'ennuie. Hein. Mais on va faire une petite pause. On va écouter Young Lean, Forever Young, sur Radio Campus Paris.
Red pill, blue pill, all the same. If you take it away, would it there be a chance? Yeah, but your love would it change. If you leave, I'll stay. I still love you today.
I wonder where you at. I wonder where you go. We're inside that mask of yours. So take it off and let it show. Love is hard to find, I know. Sometimes life is just a joke, but you stay inside the joke. Guess you're playing.
C'était Young Lean, Forever Young.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Vous écoutez la matinale de 19h et nous sommes avec Boris Lamesse et Loris Drou-Lambronzo et nous évoquons l'enquête sur l'école de la cité fondée par Luc Besson. Lola et Tiana, je vous laisse la parole.
Alors, pour revenir sur le climat toxique de l'école de la Cité, Isabelle Agal, vice-présidente de l'école, ou bien Laurent Sandon, directeur de l'école également, semblait être des adorateurs et ont entretenu un culte de la personnalité en fait, de Luc Besson. Est-ce que, au cours de votre enquête, vous avez identifié certains mécanismes sectaires, peut-on dire, de l'école ?
Alors, juste, c'est Isabelle Agide et Laurent Jodon.
Voilà, c'est juste...
Je pense qu'ils ne vont pas être contents si on écorche leur nom. Déjà,
non,
ils ne sont pas contents actuellement, donc voilà.
Effectivement.
Donc oui, on ne peut pas dire sectaire, parce que ce n'est pas un fait avéré non plus, mais c'est juste c'est un comportement semblable à quoi. Effectivement, il y a une sorte de culte de la personnalité qui a été entretenu par la vice-présidente de l'école, et ça, l'ensemble des élèves à qui on a parlé nous a décrit ça, même des gens qui aimaient plutôt bien Isabelle Agide. Il fallait vraiment admirer Luc Besson, parce que c'était l'homme qui avait tendu la main aux élèves, à des élèves qui n'auraient jamais pu mettre les pieds sur un plateau de tournage, en fait. Et donc, forcément, on va pas mordre cette main-là, quoi. Et cet effet-là s'est retrouvé même des années plus tard, parce qu'il y a des élèves qui ont refusé de parler parce qu'ils avaient peur, justement. Enfin, même pas qu'ils avaient peur, ils n'avaient pas envie, d'être infidèles à Luc Besson. Et on sait aussi que certains élèves ont reproché à d'anciens camarades de nous parler aussi. Il y a eu des débats en interne, ils ont des groupes internes de discussion entre anciens élèves, et c'est vrai que ça a fait partie aussi, et ça a compliqué l'enquête, quoi. Mais oui, je pense que je suis parti complètement sur autre chose.
C'est un sujet assez polémique quand même. Et justement, en parlant de polémique, l'avocat de Besson vous menace de suite judiciaire. Et vous, en tant que journaliste, comment est-ce qu'on gère ça ?
Alors, comment est-ce qu'on gère ça ? Alors, on gère ça parce que par la personne qui assiste derrière nous et qui s'appelle Lucas Aubry, qui est notre rédacteur en chef adjoint. Voilà. Après oui, donc il y a le service juridique, donc du côté de Sopress. Donc ça, nous, on est protégés comme ça. Mais comment on gère ça ? Moi, j'avais envie de parler de MeToo Media, qui nous a épaulés. MeToo Media, donc, qui propose aux victimes de VSS d'être entendues, par exemple quand il y a publication d'un article. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'elle propose aussi aux journalistes une cellule d'écoute, là, même pas une protection, mais une cellule d'écoute, parce que c'est vrai qu'en fait c'est pesant moralement, sans vouloir comparer à toutes les agressions qui ont été commises et subies. Hein. Mais c'est vrai que, je sais pas pour Loris, mais c'est vrai que moralement c'est un peu pesant toute la journée d'entendre parler de viol, etc., d'agression. Et en termes de protection, après, nous, après, c'est notre métier, c'est aussi de faire attention aux mots qu'on emploie, etc.
Et vous saviez déjà que c'était un sujet assez sensible, donc vous aviez pris les précautions préalables.
Oui, bien sûr, sachant qu'en plus, il y a des précédents d'actions judiciaires de la part de Luc Besson sur des journalistes. Il a quand même déjà réussi à couler une revue de cinéma Brésil il y a 20 ans de ça, avec une action en justice. Et donc effectivement, comme disait Boris, la chose se fait en deux parties. D'un côté, MeToo Media nous a accompagnés, notamment alors à la fois la cellule d'écoute, mais aussi pour nous expliquer un peu comment on s'adresse aux victimes et comment on peut nous aussi les accompagner. Donc ça passe par effectivement leur faire valider les témoignages, leur pseudo dans l'article, etc., pour qu'elles sachent qu'on n'est pas en train de leur arracher leur récit, et que voilà, on essaye d'être fidèle à leurs paroles. Et de l'autre côté, effectivement, c'est tout un travail en interne, donc c'est la relecture par nos rédacteurs en chef Lucas Aubry et Axel Cadieu, l'avocate de Sopress qui a aussi relu des passages de l'article, notamment les parties les plus touchy, pour éviter toute action en justice. Et après, effectivement, donc c'est dans la rédaction, mettre le conditionnel de rigueur et surtout ne jamais publier une anecdote ou un fait si c'est pas recroisé par plusieurs personnes. Et je crois que dans l'article, il n'y a aucune agression présumée qui n'est pas racontée de plusieurs points de vue, ou que voilà, qui n'est pas corroborée par des
sources.
Exactement.
Alors maintenant, je voulais passer sur une des questions un peu plus générales sur les VSS, donc qui sont les violences sexistes et sexuelles. Vous êtes donc tous les deux journalistes masculins, culture et cinéma. Est-ce que cette enquête, elle a changé votre regard sur le milieu que vous couvrez justement au quotidien ?
Sur le milieu du cinéma ?
Oui.
Disons que je pense que, en ce qui me concerne, le regard est déjà ouvert depuis, depuis plusieurs années, ne serait-ce parce que MeToo, enfin le cinéma quand même était en première ligne de MeToo, donc les gens du cinéma ont quand même été un peu les premiers, de manière médiatique, à se remettre en question et à interroger tous ces mécanismes qui ont lieu dans le cinéma français. Après, et l'article en lui-même, personnellement non, comme disait Boris, effectivement, ça nous apprend aussi à écouter des témoignages qui sont parfois assez durs.
Et surtout que votre projet à la base, c'était pas forcément d'enquêter sur les violences sexuelles.
Oui, bien sûr. Et après, je pense que Boris comme moi aussi, pour le magazine ou pour les magazines dans lesquels on écrit, on a l'habitude aussi de faire beaucoup d'interviews et d'interroger aussi beaucoup de femmes qui travaillent dans le cinéma. Et donc en fait, ce regard sur les VSS, on est quand même très alerté depuis plusieurs années.
Oui, après ça dépend à quel niveau on se situe aussi, enfin de la personne à qui on s'adresse, quoi. Par exemple, ça nous est déjà arrivé d'interviewer des actrices américaines très connues qui sont en poste, et c'est vrai que d'expérience, je citerai pas l'article, mais l'actrice, mais c'est une actrice qui a eu affaire à Luc Besson, et j'avais tenté à l'époque déjà une question et elle avait balayé ça d'un revers de main, voilà quoi. Donc parce qu'il y a aussi une carrière et qu'elle a pas envie de mettre quoi que ce soit en péril. Après, oui, non, comme Laurie, ça m'a pas ouvert les yeux, on va dire. Mais disons qu'il y a eu un impact plus concret. En fait, déjà d'entendre une personne, une victime raconter en détail son viol, en fait, ça rend la chose très concrète, en fait, et c'est assez sidérant, quoi. C'est pas la même chose que, par exemple, d'entendre, j'en sais pas, à la radio, il y a une distance, en fait, que ce soit par la radio, par la télévision ou autre, quoi. Parce que là, on était vraiment rentré dans une sorte d'intimité assez sordide, quoi.
Et alors justement, on sait que l'omerta dans le cinéma, c'est quand même, il se brise lentement, on va dire. Est-ce que vous espérez que votre enquête, elle fasse peut-être bouger les choses, notamment dans d'autres écoles de cinéma, que ça va pouvoir amener d'autres victimes à prendre la parole, à témoigner, peut-être que vous avez déjà été contacté par d'autres victimes?
Alors, on a été contacté par quelques personnes suite à la publication de l'article. Après, je saurais pas dire si l'article va changer quoi que ce soit. On l'espère, hein, s'il est lu, et notamment dans le milieu du cinéma, s'il peut y avoir quelques résonances, c'est toujours bon à prendre. Mais après, sur le... Quelle était la fin de la question ?
Que ça puisse amener d'autres victimes à prendre la parole, surtout dans les écoles de cinéma.
Ah oui, et concernant les écoles de cinéma, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'il n'y a pas de raison qu'en fait l'école de la cité soit un cas isolé, c'est-à-dire que c'est des reproductions de schémas de domination qu'on voit dans à peu près toutes les écoles.
Et dans la société en général.
Voilà, et en fait, tous les ans, on entend quand même des histoires sordides à Sciences Po, à l'ENA, ou dans des BDE de fac, etc. Et donc oui, je pense que les écoles de cinéma sont forcément concernées, et j'espère que s'il y a des victimes de choses comme ça dans d'autres écoles de cinéma, elles pourront se manifester.
J'ajoute qu'on nous a dit qu'apparemment l'article avait pas mal circulé dans le milieu du cinéma, parce que nous on n'a pas eu vraiment de retour, quoi. Enfin, en soi, je sais que j'ai pas reçu de mail d'une personne que je ne connaissais pas qui m'a parlé de tel ou tel fait. Oui, on nous a juste dit ça, qu'en fait ça tournait dans ce milieu-là.
Dans le milieu du cinéma, d'accord.
Donc c'est juste ça, voilà.
Très bien, parce qu'effectivement, malgré la multiplication des affaires de violences sexuelles, dont certaines qui ont été beaucoup médiatisées, en tout cas, votre enquête, personnellement, je ne l'ai pas vue beaucoup circuler dans les médias mainstream, mais on sait aussi qu'il y a toujours des voix pour remettre en question la parole des victimes, qui vont défendre le fameux droit d'importuner. Alors vous, qui couvrez ce milieu, est-ce que vous êtes confronté à des personnes qui minimisent, notamment dans votre entourage, dans votre rédaction de journaliste ?
Attention, faut pas dire du mal. Il y a Lucas Aubry derrière.
Non,
il est pas comme ça du tout, Lucas Aubry. Excuse-moi, je t'ai coupé.
Non, je pense que dans la rédaction, personne ne minimise quoi que ce soit, parce que dans tous les cas, sinon un tel article aurait pas pu se produire. Mais effectivement, dans le milieu du cinéma, et c'est aussi, comme on disait, il y a un décalage générationnel pré et post-MeToo, et c'est vrai que ça nous arrive d'interroger des personnalités du cinéma qui sont pas du tout, qui n'ont pas envie d'entendre parler de ça.
Et au sein de vos collègues journalistes, est-ce que c'est aussi le cas ? Il y a une réticence parfois que vous pouvez observer ?
pas chez Sofilm. Pas chez Sofilm du tout. Mais moi, ça m'arrive, alors pas forcément sur les magazines cités, mais d'autres, ça m'arrive d'entendre des propos qui me heurtent un peu, quoi. Et on sait très bien que, bon, c'est des hommes qui disent ça en général, hein, qui se permettraient pas de dire ça, en fait, enfin, je sais, dans un autre contexte, ils se permettraient pas, quoi. Donc ça arrive. Mais j'ai pas de cas précis à vous donner, mais je sais que ça m'est déjà arrivé d'être méchamment surpris, quoi.
Très bien.
Oh d'accord, je croyais que vous alliez y rester une minute.
On peut finir Allez-y. Sur cette question. Pour l'aller à l'actualité, est-ce que vous pensez que la condamnation de Christophe Rubia le 17 avril 2026 pourra peut-être donner plus de légitimité aux accusations faites contre Luc Besson, qui reste quand même une figure puissante dans le milieu du cinéma, avec notamment des non-lieux vis-à-vis des accusations dont il fait l'office ? Peut-être que ça va pouvoir ouvrir une enquête judiciaire plus poussée contre Luc Besson. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus.
Alors, d'une part, forcément, on espère que le fait que la justice ait donné raison à Delenel, on espère que ça sera un vrai précédent pour toutes les VSS qui ont lieu dans le milieu du cinéma, ça c'est clair et net. Concernant Luc Besson, on sait que l'enquête est close à l'échelle de la France, mais que Sandre Van Rooij, donc qui est la victime présumée qui a porté plainte contre Luc Besson,
a saisi la Cour européenne
de justice pour obtenir quelque chose à ce niveau-là. Donc on verra dans les prochains mois ce qui se passe.
C'est ça. Requête qui a été jugée recevable par la Cour.
Oui, tout à fait.
Très bien. Merci.
Eh bien, merci Boris Zamès, merci Loris Drou-Limbroso. Et maintenant, c'est le Flash Info présenté par Francesca.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. France, il y a une hécatombe en France. Une centaine de personnes se sont rassemblées ce mardi 28 avril devant le ministère du Travail à Paris pour dénoncer les morts au travail. Selon l'AFP, ils réclament des mesures pour faire baisser les accidents de travail et les maladies professionnelles. Depuis 2023, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, commémore la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail le 28 avril. Celle-ci vise à sensibiliser les employeurs et les salariés aux risques professionnels afin de prévenir les accidents, les maladies et les décès au travail. En France, en 2024, il y a eu 764 accidents de travail mortels. Ces accidents mortels sont principalement liés à des malaises, des accidents de la route, l'utilisation d'équipements de travail ou engins dangereux ou encore des chutes de hauteur. Parmi ces décès, 22 jeunes de moins de 25 ans sont morts suite à un accident du travail en 2024. Le plan de santé au travail 2026-2030 de l'inspecteur du travail devrait être présenté fin mai. Près d'un agriculteur sur deux gagne moins qu'un SMIC. Selon la première édition de l'Observatoire de la rémunération agricole équitable de Max Avelard, publiée ce mardi, 43% d'entre eux ne tirent pas un SMIC de leur activité, 54% moins que le salaire médian en France. Le rapport précise que toutes les filières ne sont pas confrontées au même niveau de fragilité économique, qu'il y a des réels écarts entre les productions agricoles, mais aussi les territoires. L'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et la Corse sont les régions où le revenu est le plus faible. Selon l'ONG, les différentes lois Egalim faites pour soutenir les revenus des agriculteurs sont insuffisantes. Depuis dimanche, le chargeur universel USB-C est obligatoire pour tous les nouveaux ordinateurs portables vendus en France. L'objectif, réduire les déchets électroniques et faciliter le quotidien des consommateurs. La règle qui exclut les PC de plus de 100 watts s'appliquait déjà depuis 2024 aux téléphones, aux tablettes, appareils photo et casques. Football, et c'est ce soir, jour de match pour le PSG qui défie ce soir le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Il faut savoir que les deux équipes se sont déjà rencontrées 17 fois depuis 1994. Le dernier match entre les deux clubs a été remporté par Bayern le mardi 4 novembre 2025. Le coup d'envoi, donc, c'est ce soir à 21h. Allez Paris.
Merci Francesca. Et maintenant, on fait une petite pause musicale et on écoute La Femme Contaminado.
ojos, la lágrima es de hielo, estamos tan contaminados.
C'était La Femme Contaminado sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et donc je suis avec Greg qui va nous parler de la cigarette. Bonjour Greg.
Exemple typique de chanson problématique en 2026. Alors pas parce que Sylvie Vartan baigne dans de sombres histoires mafieuses, enfin je crois pas, non, juste parce que les textes sur le tabac de nos jours, bah, c'est limite interdit en fait. Hein. Alors oui, je suis d'accord, la mélodie est entraînante, ça donne envie de fredonner, mais vigilance, et en particulier si vous voyagez au Royaume-Uni, ah ben vous prenez le risque de recevoir un ou deux bocs de bière dans la tronche de la part de jeunes enragés. Alors attention, tous les ados anglais ne sont pas ravagés alcooliques. Il y en a, hein, comme partout. Non, là, c'est surtout qu'en ce moment, le sujet de la cigarette est très, très touchy là-bas.
Et mais du coup, à part tuer des gens, en quoi la cigarette est un problème ?
Eh bien, parce que le Parlement britannique vient d'adopter une loi interdisant la vente de cigarettes à toutes les personnes nées après 2008. Non mais vous imaginez, vous avez 16 piges, vous passez votre journée à jouer à la console ou à vous maquiller, ça c'est comme l'alcoolisme, hein, c'est assez universel. Donc vous êtes tranquille avec vos potes et vous apprenez au détour d'une vidéo TikTok que vous serez la première génération sans clope. Alors oui, certains se disent sûrement « Ouais génial, on est les premiers, best generation ever !» Mais d'autres, en revanche, peuvent y voir une privation de liberté, un empêchement d'expérimenter. Limite, même les jeunes qui n'avaient jamais eu l'intention de fumer se sont sentis lésés. Eux qui avaient prévu de garder cette option pour plus tard, pour marquer un changement de vie, appuyer une sorte de nouvelle identité, en mode « ouais, j'ai vieilli, c'est le moment de quitter mon taf, de me décolorer les cheveux et de me mettre à fumer ». Un peu comme Adriana Carambeu en ce moment. Bon, ben certes, ils pourront toujours le faire, mais sans la clope.
Et oui, mais concrètement, dans la pratique, ça va ressembler à quoi ?
Eh bien, les générations à partir de 2008 n'auront tout simplement jamais le droit d'acheter de cigarettes au Royaume-Uni. Mais jamais, jamais, quoi, qu'ils aient 18, 45 ou 90 ans. Alors, à voir comment ça va se mettre en place, parce que par exemple, nous en France, sur le papier, la vente, elle est interdite aux mineurs. Il y a pourtant 30% des buralistes qui n'en ont rien à foutre. Tout comme l'industrie du tabac, qui, si elle pouvait vendre aux animaux ou aux bébés, bah, trouverait les moyens de créer des clopes à la viande ou au lait maternel, juste pour faire tourner la boutique. Malgré ça, cette loi Génération, qui pour l'instant n'a été expérimentée qu'aux Maldives, semble encouragée en France par les associations de santé et, oui, par des politiques de tous bords qui défendent, entre autres, la proposition de loi de l'écologiste Nicolas Thiry qui souhaite, à partir de 2032, interdire la vente de tabac à toutes les personnes nées après 2014. Alors on peut imaginer que la population suivra aussi, hein, car selon un récent sondage, 70% des Français veulent des générations sans tabac. Et attention, 9 adolescents sur 10 affirment vouloir vivre dans un monde sans tabac. Ces chiffres sont d'autant plus importants que la grande majorité des Français qui fument actuellement ont commencé avant leurs 18 ans. Donc, puisque tout le monde semble d'accord, il est peut-être temps pour les pouvoirs publics d'agir, de surfer sur cette vague de bon sens. Et d'ailleurs, vous qui nous écoutez, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous engager en signant la pétition en ligne du collectif Contrefeu. Vos voix obligeront peut-être la ministre de la Santé à sortir de sa tanière. Et peut-être prendra-t-elle enfin position le 31 mai prochain lors de la nouvelle journée sans tabac. Et si jamais, lors de cette journée, l'envie vous prenait de craquer et de vous en griller une petite, peut-être que finalement, Sylvie Vartan pourrait vous aider. Parce que si l'amour, c'est comme une clope, ben allons-y, balançons les paquets et aimons-nous. A priori, si on se protège, le seul risque qu'on prend, c'est d'avoir un peu de plaisir.
Eh bien, merci Greg pour cette chronique fumeuse. Et maintenant, c'est le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et aujourd'hui, dans le Zoom, nous recevons deux lauréates de CréaTup, un programme conçu pour encourager l'expression artistique des étudiants et jeunes diplômés en Île-de-France. Elles reviennent sur leur parcours atypique, vos doucis artistes pluridisciplinaires à l'univers sombre et surréaliste, j'ai regardé et j'ai adoré, et Sarah de Maison Lyonnard, cinéaste engagée sur les enjeux écologiques et sociétés. J'ai regardé, j'ai adoré aussi, comme ça il n'y a pas de jaloux. Et où est-ce que j'en étais avec mes bêtises, moi ? Bonjour, donc bonjour vous aussi,
bonjour Sarah.
Vous allez nous parler de création, de légitimité et des réalités de l'entrepreneuriat artistique. Et c'est Estelle qui va nous entraîner dans votre univers. Bonjour Estelle, et c'est à toi.
Bonjour à vous.
Hello, bonjour Estelle. Ça va ?
Comment allez-vous ?
Super, bien.
Alors, Vaudoucy, ton travail se situe entre le cinéma expérimental et la direction artistique dans une approche sombre et surréaliste. Sarah, issue de la Maison Liénard, qui développe un cinéma à impact engagé sur les enjeux écologiques et sociétaux dans l'esprit de la French Touch. Pour commencer, j'aimerais revenir sur votre parcours. Vous venez toutes les deux de l'univers assez fermé et corporate des prépas et des écoles de commerce qui constituent des trajectoires relativement atypiques dans le milieu artistique. Comment passe-t-on d'école de commerce, milieu formé, fermé, corporate, strict, à se lancer dans l'entrepreneuriat artistique ?
Oui, c'est une excellente question. Je vais laisser Vaudoucy répondre.
Ok. Moi, pour commencer, en fait, j'ai remarqué qu'en fait, j'étais pas très alignée avec le milieu corporate de l'école de commerce. Et je me suis dit que c'était mieux de faire de l'entrepreneuriat artistique, quelque chose qui me semblait plus honnête dans mon parcours, que prendre un chemin de la sécurité, mais qui me ressemblait pas. Du coup, je me suis lancée dans l'art.
Voilà. En ce qui me concerne, je pense que toute expérience est bonne à prendre tant qu'elle est très structurante. Et finalement, quoi que l'on fasse, faire de l'art, c'est avant tout être très exigeant et être très bien organisé. J'aimerais bien citer Charles Baudelaire qui a dit « Puisque la forme est contraignante, l'idée jaillit plus intense ». Et contrairement à ce qu'on peut penser, les artistes ne sont pas totalement fous ou totalement déstructurés. En fait, c'est un travail de longue haleine. Et donc, école de commerce ou pas, on finit par monter et par y arriver.
C'est vrai.
Est-ce que vous avez ressenti un décalage en entrant dans le monde de l'art ou au contraire une forme de liberté liée au regard extérieur ? Vaudoucy ?
Ouais, moi j'ai senti un décalage. En fait, c'était l'idée de la légitimité. En fait, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur parce que j'ai pas fait les beaux-arts, j'avais pas un portfolio très rempli, j'avais pas plein d'exhibitions à mon actif. Et du coup, j'ai l'impression que j'étais pas légitime. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal à me dire pendant longtemps que j'étais une artiste. Maintenant, je le dis assez facilement. Mais en fait, je pensais qu'il fallait être accompli pour ça. Et au fur et à mesure, j'ai compris qu'en fait, on est artiste quand on choisit d'exprimer quelque chose et le partager avec le monde. Et du coup, il n'y avait pas de légitimité à attendre. Et le syndrome de l'imposteur, il a disparu après, avec le temps.
Oui, je te rejoins totalement, Vaudoucy, là-dessus. Même après avoir gagné des prix à l'international, être allé dans une quinzaine de pays différents et avoir été en festival, être passé devant des jurys et avoir gagné même des bourses, eh bien, on se sent vraiment jamais totalement légitime. Et je pense que c'est également dû au fait qu'on est des femmes et qu'on s'attend à ce qu'on soit autre chose que des entrepreneuses dans l'art. Et c'est un petit peu dommage, on est là pour montrer que c'est pas... C'est pas que comme ça que ça se passe.
Exactement.
Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, Vaudoucy, donc ton travail se situe dans tout ce qui est approche sombre et surréaliste. Toi, c'est plus les enjeux écologiques, sociétaux. Mais comment vous décririez-vous votre univers et vos travaux respectifs ? Parce que c'est un peu...
Oui, nous on est très attachés à la French Touch. Voilà, le cinéma a été inventé en France, pas à Hollywood, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Et donc on veut remettre au goût du jour un cinéma qui est qualitatif, avec un certain nombre de talents qui sont francophones, qui doivent parfois partir aux États-Unis. Eh bien, on s'attache en fait à utiliser nos références et notre culture, également notre diversité et les idéaux français pour... avoir un art qui parle de sujets importants, donc écologiques, sociétaux, ça veut dire le numérique, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, la redistribution des richesses, et finalement, l'art, ça sert à ça avant tout.
Moi, si je devais décrire mon univers, je dirais sombre et cathartique, parce qu'en fait, j'utilise les expériences que j'ai vécues, donc les règles que j'ai transgressées, et un peu mon expérience personnelle pour parler de choses que je ressens. Donc mon art, en fait, c'est partir d'une émotion, la raconter, la vomir aux gens et après voir comment ça atteint la personne en face. Et voilà.
Vous vous êtes inspiré d'artistes, de
ouais.
courants
ouais.
Moi, mes principales inspirations, c'est David Lynch, c'est Jun Suzuki, Tim Burton et encore, il y a aussi les deux artistes qui font la stop motion, Cristobal Leon et Joaquin Cosina. Parce qu'en fait, c'est des univers qui appartiennent un peu au surréalisme, au dark art, donc un peu tout ce qui me parle beaucoup, et ce travail à l'image qui me correspond, parce que c'est un peu instinctif et viscéral, du coup, c'est un peu ce que j'aime.
Oui, alors nous, je te rejoins sur le surréalisme. Au sein de la Maison Léonard, on fait beaucoup de satire, on se moque beaucoup grâce à la fable. Et bien sûr, on a les fables de La Fontaine en France, mais pour ce qui est du cinéma, on est très attiré par les couleurs pastels pour parler de sujets très sombres. Ensuite, Tim Burton fait ça très bien, Wes Anderson également. Et puis, puisqu'on ne se compare pas à n'importe qui, hein, on y va. On adore Quentin Tarantino également.
Vous êtes donc deux femmes racisées et artistes émergentes. Pourquoi était-ce important pour vous de prendre la parole aujourd'hui ?
Vodoussi, tu veux...
Moi, c'était important de prendre la parole pour moi aujourd'hui. Déjà, de manière très générale, de donner aux gens qui ont envie de faire de l'art, qui ne sont pas légitimes et qui ont du mal à dire qu'ils sont artistes, à prendre la parole et à se lancer et ne pas hésiter à créer et ne pas attendre qu'on les valide. Et en tant que femme artiste émergente en particulier, c'est que pour montrer qu'il y a beaucoup de chemin, c'est difficile de créer et de s'assumer, surtout que moi, ce que je fais, c'est assez niche. Et que le milieu, il ne va pas faciliter l'entrée, mais qu'il faut aller aussi chercher ce qu'on veut et ne pas hésiter à saisir les opportunités et à se lancer. Voilà.
Ouais, mais vous aussi, tu dis tout très bien. Voilà, moi je suis. Mon papa est un immigré marocain, donc je suis issue de la seconde génération maintenant. Et je pense que, comme beaucoup d'immigrés, il était à la poursuite d'un certain nombre d'idéaux francophones. Et quand on a un certain prénom et un certain nom de famille, en plus d'être une femme, ouais. On peut être vite amalgamé ou être jugé. On veut montrer que non seulement on va se battre parce qu'on est une femme, mais en plus exactement. On progresse et ça ne nous empêche pas de gagner des prix et de nous accrocher. Et surtout, et c'est le plus important, de rencontrer les bonnes personnes.
Ouais.
Donc du coup, tu as toujours dû être dans la performance, toujours te justifier. Tout à l'heure, vous aussi parlez de syndrome de l'imposteur. Est-ce que toi, tu t'es senti parfois illégitime, à ta place ?
Ouais, merci beaucoup Estelle. C'est une très très bonne question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'arrive à rencontrer des producteurs assez influents ou qui sont importants, qui sont en tout cas bien implantés. Et bien même encore maintenant, je reste soit stagiaire, soit étudiante, ou je suis forcément assistante. C'est-à-dire qu'il est impossible que j'ai un projet, que je sois force de proposition. Donc ça montre qu'il y a une forme de stigmatisation qui demeure encore malheureusement. Voilà pour la petite anecdote.
J'imagine que vous avez rencontré plein d'obstacles. Est-ce que vous pourriez nous partager une expérience ?
Moi, les principaux, les difficultés que j'ai rencontrées, c'est surtout le réseau, la collaboration. Et par exemple, mon projet qui est assez niche. Par exemple, je développe une créature qui s'appelle Xy, je porte des épingles, etc. Donc, c'est-à-dire, en fait, déjà, c'est un milieu assez fermé. Donc, quand tu as un projet niche et que tu vas vers les gens, ils ne sont pas forcément très ouverts. Donc, c'est les principaux freins que j'ai rencontrés et aussi l'argent qui est un peu le nerf de la guerre.
Oui.
Donc, c'est assez difficile quand tu commences de rien, t'as pas de réseau, t'as pas de contact et t'as personne dans ta famille qui a suivi ce chemin-là. Donc, t'as pas de représentation. Donc, c'est assez compliqué, mais il faut s'accrocher.
Et toi, ça ?
Totalement. J'ajouterais que j'ai pas tonton qui est Spielberg, ni tata qui est dans la production. Donc forcément, on commence avec les moyens du bord et on fait petit. Et je le redis, hein, il y a beaucoup de personnes autour de nous qui sont incroyables et qui nous soutiennent. Ce sont ces personnes-là avec lesquelles il faut rester.
Ouais. Sarah, il me semble que en termes de freins, la question de la concurrence internationale ou de la captation des talents est vraiment très ancrée. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, je parlais du fait que les jeunes aujourd'hui qui sortent d'écoles de cinéma, de graphisme, les écoles d'art, ne trouvent plus de stage. C'est-à-dire qu'avant même de chercher un travail, de trouver un stage, c'est compliqué. Donc, on est très fière et heureux de venir proposer des projets et d'être lauréat de la mairie de Paris.
Ouais.
Où est-ce qu'on peut vous suivre, les filles ?
Sur les réseaux sociaux, sur nos sites internet, donner de la force à nos projets. N'hésitez pas aussi à venir parler avec nous. Et on est très ouverte à la conversation et collaborer, je sais pas.
Ouais, vraiment, venez pour qu'on puisse challenger nos projets, progresser, les améliorer. Yes. Et on adore discuter.
Merci à vous.
Merci à toi.
Estelle.
Eh bien, merci Vaudoucy, merci Sarah Léonard, merci Estelle, évidemment. N'hésitez pas à aller voir le clip Insomnia de Vaudoucy, un petit bijou horrifique d'ambiance sombre et inquiétante sur Instagram. Leur site, c'est vaudoucy.com et maisonlionard.fr. Et maintenant, on écoute Baby Solo, Balayette sur Radio Campus Paris.
C'était Baby Solo Balayette sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h.
Et je suis avec Noémie. Bonjour Noémie.
Hello Fabien.
Et qu'est-ce que tu as fait le 24 avril, Noémie ?
Alors, justement, je voulais un petit peu revenir sur cette journée de vendredi qui était un petit peu spéciale, pas si ordinaire, malgré le soleil qui passe et les gens et les jours qui s'allongent sur l'herbe du printemps. Parce que le 24 avril, c'était aussi la commémoration du génocide des Arméniens et Arméniennes, en tout cas fêté en France. En gros, c'est un peu la première date qui est marquante en fait, dans le processus génocidaire qui s'est passé en Arménie. Ce même jour, en 1915, il y a 600 intellectuels arméniennes et arméniens qui sont assassinés sur ordre du gouvernement turc, puis en l'espace d'un an la mort sera partout froide et frontale. Donc le 24 avril c'est important et aujourd'hui dans le sac et sur les vêtements on porte ce jour-là des petits symboles en scred pour ce triste jour devenu mémoire joyeuse à répandre. Évidemment le drapeau arménien à mettre en robe ou en cape pour les fashion designers et vous pouvez aussi noter une petite fleur violette qu'on porte depuis 2015 chaque 24 avril pour ne pas oublier ni s'envoler que la mémoire s'envole même si comme toute diaspora qui se respecte, plus dispersée, il n'y a pas. Du coup, quand j'étais petite, je voyais cette fameuse fleur violette sur la veste de mon grand-père et je me disais toujours « Ah, c'est marrant, papy, il met un pin sa fleur, il est déconstruit, si. » Bref, donc je comprenais rien. Alors, comme pas mal d'Arméniens et d'Arméniennes de France, hop, ce vendredi, 18h pétant, ni une ni deux, après le charbon, je me suis pointée à la commémoration officielle du 24 et j'ai trouvé que par rapport aux années précédentes où il n'y avait vraiment pas une retombée, où on était plongé dans un silence, les bras ballants, là, quelque chose a changé dans l'air, comme l'impression que ça avance un peu. En tout cas, c'est plus écouter, ça prend plus d'ampleur. Espérons que ce sera pas une cause, que ce sera une cause moins annexe, disons. Et comme toujours, là-bas, t'as tous les âges, t'as les grand-mères qui viennent en bande, celles qui parlent fort et qui font des blagues que moi, je comprends un mot sur cinq. les cousines venues du 9-4, lunettes de star, clope au bec, justement, drapeau et pancarte levée. Enfin, il y a vraiment l'impression d'être accueillie, en fait, dans un nid, comme si moi, je débarquais chez mes anciens, le sourire aux lèvres, comme s'ils m'attendaient, en fait, les œufs crevés et les plats qui attendent et dorment encore dans l'ombre. Mais derrière cette commémoration, il s'est produit quelque chose et j'ai réussi à nommer ce truc qui m'a longtemps troublée. C'est cette impression très bizarre qu'on parle à ta place en fait, qu'on prend un peu ta lutte pour en faire son beurre. Ce truc très politique aussi où on te vole ton jour préféré de l'année pour que puisse briller. Au hasard, ça donne à Marseille un Sébastien Lecornu qui nous pond un petit discours tout propre sur les diasporas alors qu'on connaît ses positions sur d'autres sujets. Mais le plus fort, le plus haut niveau, ça reste quand même Retailleau car effectivement, une majorité écrasante des habitants d'Arménie sont de confession chrétienne et Retailleau, ça l'arrange parfaitement. Notre commu, elle tombe à pic, il nous chope là comme ça, pour mieux s'opposer aux autres communautés non chrétiennes de France. Donc effectivement, ils hissent une communauté pour balayer le reste. Donc nous, on baisse les yeux, on attend que ça passe pour ne jamais être assimilé à ça. Et gros scoop, tenez-vous prête. En fait non, Bruno Retailleau, les génocides, ça se sélectionne pas, ça se combat, tous autant qu'ils sont et sans condition. Bref, le 24 avril, c'est toujours fort. Et même si ça fait remonter les marécages, les armes et les larmes à la surface parfois, chez nous, ça se prend avec de la distance, il y a beaucoup de rire à la maison parce que l'horreur, c'est fini. Et qu'on est ensemble ici et maintenant. Le 24 avril fait partie de ces drôles de contes qu'on se raconte le dimanche soir dans le canap. Alors on pourrait juste rigoler et profiter sans se révolter, à l'image du dos courbé et des doigts cloqués de nos grands-parents. On pourrait très bien poursuivre leur silence sans moufter, sans point levé dans les nuages. Mais je crois qu'aujourd'hui, il et elle seraient peut-être heureux d'entendre ce qu'on leur a dit de cacher, à savoir cette brillante et fluorescente arménité.
Eh bien, merci Noémie. La matinale est terminée. Merci à Boris Zames, merci à Loris Drou-Limbrozzo, ainsi qu'à Lola et Tiana. Merci à Vaudoucy et Sarah, merci à Estelle pour le Zoom, merci à Francesca pour le Flash Info. Merci à Greg et Noémie pour leur chronique. À l'AREA, c'était David. À la coordination, c'est Aude et Jeanne. À suivre le lobby et après, au Pays des Rêves. La matinale revient demain, même heure. Passez une bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris 93.9 FM.